Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 90, Daf Tzadik. Bonne écoute et bon limoud.
Ilo Chazul Ola Trova, si parce qu'ils ont été sacrifiés au nom d'un autre sacrifice, il ne peut pas être valable en tant que Korban Ola obligatoire, Karvel Ola Tnedava, ils pourront être offerts en tant que Korban Ola facultatif. Ceci ne s'appellera pas un changement de nature du sacrifice. Donc, par exemple, s'il s'agit du mouton qui accompagne l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, s'il a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice, il sera transformé en simple Korban Ola facultatif qui sera accompagné de l'offrande normale, donc de un seul Issaron. Ou bien s'il s'agit du sacrifice journalier qui a été sacrifié au nom d'un autre sacrifice, il sera transformé en Korban Ola facultatif qui ne devra pas être accompagné de bûches de bois. Avalacha, mais ici, lorsqu'il s'agit du Korban Hasham offert par le lépreux, ilo mukmitleh bemilte, si tu ne le laisses pas tel quel, donc qu'il garde le statut de Korban Hasham du lépreux, Hasham nedava mika, existe-t-il un Korban Hasham facultatif qui peut être offert sans obligation? Forcément, il devra garder son statut d'origine de Korban Hasham du lépreux, qui devra être donc impérativement accompagné de libation. Cependant, nous noterons, comme le précise le Keren Ora, il est vrai que pour tout sacrifice, si il n'a pas été accompagné de libation, le sacrifice est quand même valable. Mais ici, il est question de savoir, est-ce que les libations sont toujours obligatoires ou non? Tania Kebateh de Rabbi Yochanan, il a été enseigné une braïta qui correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan. Hasham metzora shecharto shelo lishmo, le korban Hasham du lépreux qu'il a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, o shelo natan midamo al gabe beonot, ou bien dont il n'a pas effectuer les applications de sang sur les pouces et le lobe de l'oreille du lépreux, harezé olel gabe misbeach, il sera offert sur l'autel, donc ses graisses seront offertes sur l'autel comme s'il s'agissait du korban hasham, vetaun mesachim et nécessite d'être accompagné de libation. Cependant, étant donné que le lépreux ne s'est pas rendu quitte de l'obligation d'offrir le sacrifice, vetzarich hasham acher latiro, il devra offrir un autre korban hasham pour le permettre, c'est-à-dire pour compléter sa purification. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Menachot Daf Petet. Nous commençons le shiur de Maseret Menachot Daf Tzadeh à la 7e ligne du haut de la page à la Mishnah. La Mishnah revient aux lois concernant les mesures dont nous avons parlé au début de ce chapitre, voire le Chidushim Ubiurim sur la Mishnah précédente. Alors la Mishnah dit « Kol midot sheba migdash » toutes les mesures qu'il y avait dans le sanctuaire « Hayu migdashot » se mesuraient alors qu'elles étaient bombées. Chutz Michel Kohen Gadol, à part celle employée par le Kohen Gadol pour son offrande journalière, Shehaya Gotcha, nous lisons selon la Shitam Kubetset, Betocha, dont la partie bombée se trouvait à l'intérieur. Autrement dit, l'ustensile qui servait à la mesure de l'offrande pour le Kohen Gadol était plus grande, de manière à contenir un Issaron lorsqu'elle était remplie à ras-bord, alors que les autres mesures ou l'autre mesure d'un Issaron contenait un Issaron uniquement lorsque l'ustensile était bombé. Donc en fait, la mesure qui servait au Kohen Gadol contenait la partie bombée qui faisait partie de la mesure dans l'autre mesure. Midat halach, en ce qui concerne les mesures des liquides, birutsehen kodesh, leur surplus qui ont coulé le long de leur paroi extérieure. Ce surplus inclut aussi le fait que lorsqu'on remplit la mesure entièrement, il est possible de la remplir de manière à ce que le liquide dépasse légèrement le rebord de l'ustensile. En tout cas, donc, ces surplus sont sanctifiés, ils ont la sainteté du sacrifice, comme l'explique le Chazon Ish dans Siman Kavzayin que nous avons mentionné plus haut d'Af Pechet. Il est possible d'offrir ces surplus avec l'offrande ou la libation qui accompagne le sacrifice. Si on ne l'a pas fait, il garde quand même cette sainteté de sacrifice. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce qu'on fait avec. Umidat ha'avesh, tandis qu'en ce qui concerne la mesure de solide, birutsehen chol, leur surplus, qui se sont répandus lorsqu'on a rempli la mesure, sont profanes, n'ont pas la sainteté du sacrifice. Rabbi Akiva Omer, midat halach, la mesure des liquides kodesh, est elle-même sacrée, l'efikar birutsehem kodesh, c'est pourquoi leurs surplus sont sacrés, ont la sainteté du sacrifice. Midat hayavesh chol, tandis que la mesure de solide et profane n'est pas sacré. Les fikach birutzehen chol, c'est pourquoi leurs surplus sont profanes, ne sont pas sacrés. Rabbi aussi Omer, l'homme ishumze, ce n'est pas cela la raison. Et là plutôt, chez halach ne ekar, c'est parce que le liquide en surplus qui s'est répandu peut provenir de l'intérieur de l'ustensile, il a donc été sanctifié. Behayavesh, tandis que le solide et non ekar ne provient pas de l'intérieur de l'ustensile, s'il s'est répandu, il s'est répandu de l'extérieur de l'ustensile, car le surplus en question s'est répandu lorsque la mesure était pleine. C'est pourquoi donc, le surplus qui s'est répandu n'est pas sanctifié. Alors la Gemara dit, nous avons vu dans la Mishnah que toutes les mesures dans le sanctuaire sont mesurées alors qu'elles sont bombées. Alors la Gemara demande, Mané, quel est l'auteur de la Mishnah? I Rabbi Meir, si l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, que nous avons vu au début du chapitre, Chad Gadou Shava, il n'y a qu'une seule mesure qui se mesure alors qu'elle est bombée. Les autres mesures qui sont employées par le Kohen Gadol sont mesurées alors qu'elles sont rases. Irabanan, si nous disons que la Mishnah a été rédigée par les Chachamim, Chada, il n'y a qu'une seule mesure contenant un Isaron, ou Machu Kava, et elle se mesure alors que la mesure est rase. Donc, selon qui va la Mishnah? L'Agma répond, Amar Rav Chisda, Leolam, Rabbi Meir, toujours pourrais-je te dire que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Meir, ou Maikol Midot, et que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit toutes les mesures? En fait, elle veut dire Kol Medidot, toutes les mesures qui sont effectuées dans le sanctuaire, à part celles effectuées par le Kohen Gadol, sont effectuées alors que la mesure est bombée. Car, comme nous l'avons vu au début du chapitre, il y avait, selon Rabbi Meir, deux mesures d'Aïsaron. Une qui contenait un Isaron lorsqu'elle était bombée. Celle-ci servait pour toutes les mesures d'un Isaron dans le Beth Amikdash pour toutes les offrandes. La deuxième contenait un Isaron lorsqu'elle était remplie à bord. Celle-ci était utilisée par le Kohen Gadol pour son offrande journalière. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Midat halach birutzehen kodesh » En ce qui concerne les mesures de liquide, leurs surplus sont sacrés. Nous avons vu dans la Mishnah deux avis supplémentaires qui expliquent pourquoi le surplus des mesures liquides sont sacrés. Alors la Gemara demande, Maïka Miflegé, en quoi discutent les trois auteurs de la Mishnah? La Gemara répond, Tanakama Savar, le premier auteur de la Mishnah pense, Midat Halach Nimshecha Ben Mibifnim Ben Bibachutz. La mesure des liquides a été enduite et donc sanctifiée, soit à l'intérieur, soit aussi à l'extérieur. C'est pourquoi, étant donné que le liquide coule le long des parois extérieures, ils sont aussi sacrés, ils ont la sainteté du sacrifice. Midat Yavesh, tandis que la mesure des solides, Nimshecha Mibifnim, a été enduite de l'intérieur, donc elle a été sanctifiée à l'intérieur, Velom Nimshecha Mibachutz, mais elle n'a pas été enduite avec l'huile d'onction à l'extérieur, donc l'extérieur n'a pas été sanctifié, même si le surplus qui se répand touche l'extérieur de l'ustensile de mesure, il n'a pas été sanctifié. Rabbi Akiva Savar, Midat Halach, la mesure des liquides Nimshecha ben Mibifnim ben Mibachutz a été enduite avec l'huile d'onction soit à l'intérieur soit à l'extérieur. C'est pourquoi le surplus des liquides est sacré, étant donné qu'il a coulé le long de l'extérieur de l'ustensile, ils ont été sanctifiés. Midat Yavesh, tandis que la mesure des solides, l'onim shecha kolikar, n'a pas du tout été enduite avec l'huile d'onction, donc elle n'a pas du tout été sanctifiée. Donc, ce que l'on mesure dans la mesure des solides a uniquement la sainteté provenant par l'homme lorsqu'il les a désignés pour son offrande. Il n'a eu l'intention que de sanctifier ce qu'il va utiliser et non pas le surplus. Rabbi aussi Savar, il dit veidi nimshecha mibifnim velo nimshecha mibachutz. Cela et cela, donc soit la mesure des liquides, soit la mesure des solides, ont été enduits à l'intérieur, donc ils ont été sanctifiés à l'intérieur, mais n'ont pas été enduits à l'extérieur. Donc ils n'ont pas été sanctifiés à l'extérieur. Et ici, c'est cela la raison pourquoi nous faisons la différence entre la mesure des liquides et la mesure des solides. Delach ne'ekar, car le liquide en surplus, donc qui coule à l'extérieur de l'ustensile, provient en fait de l'intérieur, ou migavah de manakate, il vient donc de l'intérieur de l'ustensile, Il a donc été sanctifié. Behayavesh, tandis que le solide est non écart, ne se déplace pas et ne provient pas de l'intérieur de l'ustensile. C'est pour cela qu'il n'est pas sacré. La Gemara demande, selon l'opinion de Rabbi aussi, Vechine Ekar, même s'il provient de l'intérieur de l'ustensile, Mayhave, qu'est-ce que cela fait? Gavrad le Maïde Tsarir Kamechaven. L'homme en question a eu l'intention de sanctifier uniquement ce qu'il a besoin et non pas le surplus. La Gemara répond, Amarav Dimi Bar Shishena Mishmeh Derav, Zotomeret, cela veut dire, Klesharet Mekadjin Shelomedat, des ustensiles de service, sanctifient ce qui s'y trouve, même sans l'intention de la personne qui les remplit. C'est pourquoi donc les liquides, comme nous l'avons expliqué, sont sanctifiés étant donné qu'ils ont été contenus dans l'ustensile de service. Ravina Amar, le Olam et Malecha, toujours pourrais-je te dire Klei Sharet en Mekadchin et Lamidat, que les ustensiles de service ne sanctifient que lorsqu'il y a l'intention et la volonté de la personne qui les remplit. La raison pour laquelle nous disons que les surplus de liquides sont sanctifiés, c'est parce que Ugzera Shema Yomru, les Chachamim ont décrété cela, que les surplus des liquides sont sanctifiés, de peur que les gens disent Motsi'in Mikli Sharet Leklichol, qu'il est permis de faire sortir ce qui a été contenu dans un ustensile de service pour une utilisation profane, même s'il a été sanctifié. Motive Rabbi Zera a opposé à cette interprétation de Ravina la Braïta suivante. La Braïta dit Sider et Halechem vet Habazichin Lachar HaShabbat, s'il a placé les pains spéciaux et les coupelles contenant le galbanum sur la table dans le sanctuaire après le Shabbat, donc par exemple le dimanche, au lieu de l'avoir fait le Shabbat, Behiktir et Habazichin BeShabbat, et il a offert les coupelles de galbanum pour les brûler sur l'autel le Shabbat qui suit, alors qu'ils auraient dû rester une semaine entière, donc à partir du Shabbat jusqu'au Shabbat suivant sur la table, Psula, cette offrande, donc ce galbanum, est invalidée et les pains le sont aussi. Ketzad yase, comment fera-t-il pour que ces pains soient valables? Yanichenu le Shabbat haba, il n'a qu'à les laisser jusqu'au Shabbat suivant, donc jusqu'au troisième Shabbat. Shafiluhu al shulchan yamim rabim, car même si les pains restent plus de jours que nécessaire sur la table, en bekar klum, cela ne fait rien. Ils ne sont pas invalidés par le passage de la nuit. Et cela, car les pains ne sont sanctifiés que lorsque le moment prévu pour le faire est arrivé, donc que le Shabbat, étant donné qu'ils ont été placés sur la table un dimanche, jusqu'au Shabbat suivant, ils n'ont pas la sainteté spéciale de l'offrande ou du sacrifice, donc ils ne seront pas invalidés par le passage de la nuit. Lorsqu'arrive le Shabbat, ils seront sanctifiés, et on les laissera donc une semaine entière, et on offrira le galbanum le Shabbat suivant. Et ainsi, les pains seront permis à la consommation des Kohanim. Alors la question se pose, Vehamai, pourquoi permet-on de laisser les pains et le galbanum une semaine supplémentaire sur la table dans le sanctuaire? Hatam Nami, là-bas aussi les mains, on n'a qu'à dire et interdire de le faire. Gzera Shema Yomru, et ce par décret des Chachamim, de peur que les gens disent, Mafkidin Bikli Sharet, qu'il est permis de laisser quelque chose en dépôt dans un ustensile de service, et il ne sera pas invalidé par le passage de la nuit. Alors qu'en général, lorsque quelque chose a été contenu dans un ustensile de service, il est invalidé par le passage de la nuit. La Gemara répond, Pnimachut Karamit, poses-tu une question à partir de ce qui se passe à l'intérieur du sanctuaire sur ce qui se passe à l'extérieur? Pnim, en ce qui concerne ce qui se passe à l'intérieur du sanctuaire, par exemple sur la table, Lav Kula Al-Mayadeh, pas tout le monde sait ce qui se passe là-bas, car les gens ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur du sanctuaire. Seuls les Kohanim le savent. Les Kohanim sont zélés. Il n'y a donc pas de raison de décréter, d'interdire, de laisser les pains une semaine supplémentaire sur la table. Routz, tandis que ce qui se passe à l'extérieur du sanctuaire, donc dans la cour du sanctuaire, Kule Al-Mayadeh, tout le monde sait ce qui se passe. Si on voit que les surplus des liquides sont permis, c'est-à-dire ne sont pas sanctifiés, les gens risquent de dire que ce qui a été contenu dans un ustensile de service, même s'il a été sanctifié, peut être utilisé pour une utilisation profane. Nan hatam, il est enseigné là-bas, dans une Mishnah dans Maseret Shkalim, Perek Dalet Halachabet. Motar Nesachim, le surplus des libations, le Kaitz HaMizbeach, est utilisé pour offrir en quelque sorte un dessert sur l'autel. En effet, le terme Kaitz veut dire des figues sèches qu'on mange en général en dessert, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de sacrifice à offrir sur l'autel, on achète des sacrifices avec l'argent obtenu par le surplus des libations qu'on offre en tant que korban olah sur l'autel. En l'agmara demande, Maï motar nesachim, que veut dire la Mishnah lorsqu'elle parle de surplus de libations? L'agmara répond, Rabbi Chia bar Yosef amar birutse midot, nous parlons des surplus des mesures. Donc, le surplus des liquides comme le vin et l'huile qui ont coulé lorsqu'on a rempli les mesures, s'ils n'ont pas été offerts avec le sacrifice comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, ils devront être rachetés et avec cet argent, on offrira des sacrifices sur l'autel lorsqu'il n'y a pas d'autres sacrifices à offrir. Rabbi Yochanan amar, que otah sheshaninu, le surplus des libations dont parle la Mishnah, c'est comme ce qui a été enseigné dans une braïta, Hamkabel alav lesapek slatot me'arba, celui qui s'engage à fournir de la farine à raison de 4 mesures pour un sela en échange d'argent qu'il a reçu, Bamdou Beshalosh, et le prix a augmenté, et maintenant le prix est à raison de 3 mesures pour un sela, Yesapek Me'arba, il aura l'obligation de fournir la farine au prix fixé à l'origine, donc à raison de 4 mesures pour un sela, car en ce qui concerne le Hekdesh, ce qui est sacré, l'argent qu'il a reçu a terminé la transaction, il ne peut plus revenir dessus. Et ce, contrairement aux particuliers, dont la transaction se termine que lorsque l'acheteur a tiré vers soi la marchandise.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous sommes Masechet Menachot d'Av Tzadi Amud Bet, en haut de la page. La Guémara a rapporté précédemment une Mishnah dans Masechet Shkalim Perek Dalet Halakha Bet qui dit que le surplus des libations est employé pour offrir des sacrifices lorsqu'il n'y a pas d'autre à offrir sur l'autel. La Guémara s'est demandé qu'est-ce que c'est le surplus des libations dont parle la Mishnah. La première réponse proposée par Rabbi Chia bar Yosef, c'est que le surplus dont parle la Mishnah, c'est ce qui s'est répandu lorsqu'on a rempli les mesures. Ce surplus sera donc récupéré et vendu. Avec le produit de la vente, on achètera des sacrifices qui seront offerts sur l'autel lorsqu'il n'y en a pas d'autre à offrir. Rabbi Yochanan propose une autre réponse en s'appuyant sur une braïta qui dit que lorsqu'une personne s'engage à fournir de la farine, par exemple, pour les offrandes, à raison de 4 mesures pour un sela contre de l'argent qu'il a reçu, et le prix a augmenté, il devra quand même fournir la marchandise, donc la farine, au prix qui a été fixé à l'origine. Et cela car la transaction a été terminée dès que l'argent a été reçu. La braïta poursuit, Michaloche, si la personne en question s'est engagée à fournir de la farine à raison de 3 mesures pour un sela contre de l'argent qu'il a reçu, Vamdou Me'arba, puis le prix a baissé, maintenant il est à raison de 4 mesures pour un sela. Mesapek Me'arba, il fournira la farine au nouveau prix, donc de 4 mesures pour un sela. Et cela, car comme l'explique le Tosfot, selon l'opinion de Rabbi Yehuda dans Masechet Baram Tziadaf Ayin Bet, même lorsqu'il s'agit d'un particulier, l'acheteur peut dire au vendeur, puisque le prix a baissé, rends-moi l'argent pour que je puisse acheter cette marchandise ailleurs au nouveau prix qui a baissé, ou bien tu n'as qu'à me fournir la marchandise au nouveau prix. Alors pour ne pas que le particulier ait plus d'avantages dans les transactions que le Hekdesh, donc pour les transactions de choses sacrées, dans ce cas la transaction est annulée et donc le vendeur doit fournir la marchandise, la farine, au prix le plus bas. Shiyad Hekdesh Alayona, ce qui veut dire littéralement, la main du Hekdesh est toujours au-dessus, autrement dit, pour le Hekdesh, il y a toujours les meilleurs droits. Donc si le prix a augmenté, le fournisseur doit fournir au prix d'origine qui est le plus bas, mais si le prix a baissé, il fournira la farine au prix le plus bas, donc au nouveau prix. Donc dans cette situation où le prix a baissé, le Hekdesh a donc gagné par la différence de prix et cet argent qu'il a gagné sera employé pour offrir des sacrifices lorsqu'il n'y en a pas d'autre à offrir sur l'autel. Tania Kevateh de Rabbi Chia bar Yosef, il a été enseigné une braïta qui correspond à l'opinion de Rabbi Chia bar Yosef. Tania Kevateh de Rabbi Yochanan, il a été aussi enseigné une braïta qui correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan. En effet, Tania Kevateh de Rabbi Chia bar Yosef, il a été enseigné une braïta qui correspond à l'opinion de Rabbi Chia bar Yosef, qui dit comme suit, Birutse midot halalu, les surplus des mesures, donc ce qui a été répandu lorsqu'on a rempli les mesures, Mahayu osin bahem, qu'en faisait-on? La Breta dit, Imiesh Zevach Acher, s'il y a un autre sacrifice qui a déjà été sacrifié et qui attend donc d'être accompagné de libation, Yakrivo Imo, on pourra joindre ces surplus pour les offrir avec les libations de l'autre sacrifice. Veim Lanu, si on n'a pas employé ces surplus immédiatement, et donc la nuit est passée, Ipaslu Belina, ils seront invalidés par le passage de la nuit. Veim Lav, et sinon, c'est-à-dire si on les rachète tout de suite pendant cette journée, lorsqu'ils n'ont pas été offerts avec d'autres sacrifices, ou comme nous l'avons dit précédemment, ils n'ont pas été offerts avec les libations qui accompagnaient ce même sacrifice, Mekitsin Bahen et Amizbeach, on les rachète, et avec le produit de la vente, on offre, pour ainsi dire, un dessert sur l'autel. Vekait Zemahu, et qu'est-ce que c'est que ce dessert en question? Olot, il s'agit de Korbanola, donc on achète un sacrifice qui sera offert comme Korbanola, Habassar Lachem, la viande sera donnée à Kadosh Baruch Hu, donc sera offerte pour être brûlée sur l'autel, Veorot Lakohanim, et les peaux de ce sacrifice seront données au Kohanim. C'est-à-dire, bien que finalement, ce sacrifice provient des libations qui devaient être offertes entièrement sur l'autel, on pourra quand même utiliser ces peaux et elles seront données au Kohanim. Tania Kebate de Rabbi Yochanan, il a été enseigné une braïta qui correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan. Ham Kabel Alav Lesapek Slatot Me'arba, celui qui s'engage à fournir de la farine à raison de 4 mesures pour un Sela, contre de l'argent qu'il a reçu, Ve'amdu Mishalosh, et le prix a augmenté, maintenant, le prix est à raison de 3 mesures pour un Sela, mais Sapek Me'arba, il a l'obligation de fournir la farine à raison de 4 mesures pour un Sela, donc au prix d'origine, comme nous l'avons expliqué précédemment. Mishalosh, s'il s'est engagé à fournir de la farine à raison de 3 mesures pour un Sela, Ve'amdu Me'arba, puis le prix a baissé, maintenant il est à raison de 4 mesures pour un Sela, mais Sapek Me'arba, il doit fournir la farine au nouveau prix, qui est donc à raison de 4 mesures pour un Sela. Shiyad Hekdesh Alayona, car la main du Hekdesh a toujours le dessus, c'est-à-dire dans notre contexte, les changements de prix sont toujours à son avantage. Donc, lorsque le prix a augmenté, nous considérons que puisqu'il s'agit du Hekdesh, la transaction a été terminée par le fait que le vendeur a reçu l'argent. Le fournisseur doit donc fournir la farine au prix d'origine. Mais si le prix a baissé, étant donné que le particulier peut se raviser, comme nous l'avons expliqué, le Hekdesh le pourra aussi, afin que les transactions ne soient pas plus avantageuses pour le particulier que pour le Hekdesh. La Breta poursuit, Zehu Sheshaninu, et c'est justement cela que nous avons enseigné dans la Mishnah, dans Maseret Shkalim, Perigdal et Talachabet, Motar Nesachim Lekait Amizbeach, que le surplus des libations est utilisé pour offrir des sacrifices sur l'autel lorsqu'il n'y en a pas d'autre à offrir. C'est-à-dire que dans le cas où les prix ont baissé, et le Hekdesh a donc gagné par la différence de prix, l'argent qu'il a gagné sera employé pour offrir des sacrifices sur l'autel lorsqu'il n'y en a pas d'autre à offrir. Nouvelle Mishnah, nous revenons aux lois concernant les libations qui accompagnent les sacrifices. La Mishnah dit, Kol Korbanot Hatzibur Vayachid, tous les sacrifices publics ou ceux provenant d'un particulier, Teunin Nesachim, nécessitent d'être accompagnés de libations. Chutz Minabechor Vamaaser Vapesach, à part le premier-né animal, la dîme des animaux et le korban pesach, qui sont des sacrifices provenant d'un particulier, behachatat behaasham, et aussi à part le korban chatat, soit s'il est offert par un particulier, soit s'il s'agit d'un korban chatat public, et aussi à part le korban asham. Et là, cependant, chez chatato, shel metzora behashamot unin nesachim, le korban chatat du lépreux et son korban asham nécessitent d'être accompagnés de libations. La Gemara dit là-dessus, Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta qui interprète les différents psukim dans Bamidbar Tedvav concernant l'obligation d'accompagner un sacrifice de libation. Alors le pasuk qui introduit l'obligation d'accompagner les sacrifices de libation commence par dire « Va'asitem ishel Hashem » et vous ferez quelque chose qui sera consumé par le feu de l'autel pour Hashem. Le pasuk poursuit en disant que celui-ci sera accompagné de libation, Yachol, on aurait pu penser et dire, Kol ha'ole le'ishim, tout ce qui monte pour être brûlé sur le feu de l'autel, Yehe ta'u nesachim, nécessitera d'être accompagné de libation, afilu mincha, même s'il s'agit d'une offrande à base de farine. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk poursuit en disant, Ola, un korban ola. Donc, lorsque le pasouk mentionne le korban ola, il vient exclure les offrandes à base de farine. Shlamim minayin, d'où sait-on que lorsqu'une personne offre un korban shlamim, celui-ci doit être aussi accompagné de libation. Il est vrai que, comme le soulève le Tosfot, dans la suite du paragraphe qui parle d'offrande de bovin comme sacrifice, le pasouk mentionne clairement le korban shlamim, mais la question se pose ici concernant les ovins offerts comme korban shlamim, donc le menu bétail, pour lesquels le pasouk ne le dit pas clairement. Alors d'où sait-on que lorsque du menu bétail offert comme korban shlamim, il devra être accompagné de libation? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit « zevach », un sacrifice en général. Cela inclut donc le korban shlamim. Toda minayin, d'où sait-on que le sacrifice de remerciement nécessite aussi d'être accompagné par des libations? L'Agmara expliquera. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit « o zevach » ou bien un sacrifice. Le terme « o » inclut aussi le sacrifice de remerciement. Yachol she'ani marbe af bechor maaser ou pesar vechatat ve'asham. Serait-il possible aussi de dire que j'inclus même le premier-né animal, la dîme des animaux et le korban pesach ou bien le korban chatat ou le korban hacham? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk poursuit en disant les falais neder au bindava, pour accomplir un vœu ou pour offrir donc ce sacrifice en tant que sacrifice facultatif. Cette précision supplémentaire du pasouk nous enseigne que ba beneder ou nedava, un sacrifice qui peut être offert soit par le moyen d'un vœu, soit par simple cadeau, donc d'une manière facultative, ta'un nesachim nécessite d'être accompagné de libation. Chez enoba beneder ou nedava, mais un type de sacrifice qui ne peut pas être offert en tant que vœu ou comme simple cadeau, en ta'un nesachim ne nécessitera pas de libation. Nous exclurons donc les sacrifices que nous avons énumérés plus haut, le premier-né animal, la dîme des animaux, le korban pesach, le korban achatat et le korban hacham, qui ne peuvent pas être offerts volontairement, ils ne sont offerts que lorsqu'il y a une obligation de le faire. Mashma lotzi et elu, nous pouvons déduire du pasouk d'exclure ces types de sacrifices que nous avons énumérés. Otzi et chovot habaot machamat haregel baregel, peut-être que j'exclus aussi les sacrifices obligatoires venant à cause des fêtes et qui sont offerts à l'occasion des fêtes, ou maininhu, et de quel sacrifice s'agit-il? Olot reya, le korban ola, qu'une personne doit offrir lorsqu'il vient se montrer au sanctuaire à l'occasion des fêtes, veshalme chagiga, et les korban shlamim, de joie, qu'on offre aussi à l'occasion des fêtes. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, o bemoadechem, ou à l'occasion des fêtes. Kol haba bemoadechem taun nesachim, tout ce qui vient, donc tout ce qui est offert à l'occasion des fêtes, nécessite d'être accompagné de libation. En mashma le'avi et elu, nous pouvons déduire de ce pasouk d'inclure cela. Donc le korban ola qu'une personne a l'obligation d'offrir lorsqu'il vient se montrer dans le sanctuaire à l'occasion des fêtes, et le korban shlamim de joie qu'on offre aussi à l'occasion des fêtes. Avi seire chatat, je pourrais inclure aussi les boucs offerts par le public en tant que korban chatat, ho'il ou ba'in chova baregel, puisqu'il s'agit de sacrifices obligatoires à l'occasion des fêtes, il rentre donc dans la catégorie que nous avons énoncée plus haut. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit par la suite, vechita se ben bakar, etc. Lorsque tu offriras un petit gros bétail, autrement dit un veau, en fait, le pasouk poursuit en disant, lorsque tu offres un veau, il sera accompagné de 3 issarons de farine, etc. Donc, ce passage qui dit « lorsque tu offriras un veau comme sacrifice » est en plus. Et de plus, « ben bakar beklal haya », le petit gros bétail était déjà dans la règle générale énoncée plus haut « lorsque tu offriras un sacrifice ». « Velama yatsa », pourquoi est-il sorti, c'est-à-dire pourquoi a-t-il été mentionné séparément ?« Le haki shelav », c'est pour juxtaposer et comparer les autres sacrifices à ce bovin. Ma ben bakar meyuchad, de même que le petit gros bétail a cela de particulier, c'est que ba beneder ou nedava, c'est qu'il est offert, donc il peut être offert soit pour accomplir un vœu, soit en cadeau, donc il peut être offert volontairement, comme le pasouk poursuit en le disant clairement. En effet, le pasouk dit, lorsque tu offriras un jeune bovin en tant que korban ola, ou pour accomplir un vœu, ou en tant que korban shlamim, donc nous voyons qu'il s'agit de sacrifices volontaires. Afkol, ainsi, tout sacrifice nécessitera d'être accompagné de libation, à la condition que ba beneder ou medava, qu'il s'agisse d'un type de sacrifice qui peut s'offrir soit pour accomplir un vœu, soit comme simple cadeau. Nous exclurons donc les boucs offerts par le public en tant que korban khatat, car il n'existe pas de korban khatat facultatif, mais nous inclurons le korban ola qu'une personne a l'obligation d'offrir lorsqu'il vient au Beit HaMikdash à l'occasion des fêtes, car le korban ola est un type de sacrifice qui peut s'offrir volontairement. Il en est de même pour le korban shlamim de joie qu'on offre à l'occasion des fêtes, car le korban shlamim est aussi un type de sacrifice qui peut s'offrir volontairement. Lorsque le pasouk conclut en disant « La sod reach nichoach l'Hashem min habakar o min atzon » pour dégager une bonne odeur pour Hashem du gros ou du menu bétail, Matan Moudlomar, qu'est-ce que ce passage vient nous enseigner? La Braïta répond, le fiche est Neymar, puisque le pasouk dit Ola, donc au début le pasouk mentionne le korban Ola, Shomeani, j'aurais pu comprendre, Afilo Ola Taufe Mashma, que même l'oiseau offert en tant que korban Ola est sous-entendu, c'est-à-dire du terme Ola qui est un terme général, il inclut donc soit l'animal, soit l'oiseau offert comme korban Ola, on aurait pu comprendre que même l'oiseau offert comme korban Ola sera accompagné de libation. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit « Min habakar o min atzon » du gros ou du menu bétail, ce qui exclut donc les oiseaux offerts comme korban ola. D'ivrei Rabbi Yoshia, ce sont les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, « Eno tsarich » nous n'avons pas besoin de ce passage pour exclure les oiseaux. Et cela car « Hareu Omer Zebach » voici que le pasouk dit précédemment « Zebach » il emploie le terme de « sacrifice »« Ve'of eno zebach » l'oiseau n'est pas un sacrifice, car le terme zevar suggère un sacrifice qui a été égorgé. Or, l'oiseau n'est pas égorgé, mais plutôt il est sacrifié par le fait que le Kohen plante son ongle dans sa nuque. Il ne rentre pas donc dans la catégorie de zevar, il est donc exclu par le début du pasouk. Imken matalmud lomar min habakar u min atzon. Si c'est ainsi, que veut dire le pasouk lorsqu'il dit du gros ou du menu bétail? Rabbi Yonatan répond, le fiche Neymar, puisque le pasouk dit dans Vaikra Aleph, Adam ki akriv mikem korban lachem min habbehema min habakar ou min hatson, un homme parmi vous qui voudra offrir un sacrifice pour Hachem, des animaux, du gros bétail et du menu bétail, yachol, serait-il possible de dire que haomer hare alayola, celui qui dit je m'engage à offrir un korban ola, yavi mishnehem, il devra offrir les deux, donc un animal du gros bétail et un autre animal du menu bétail. Et cela car le vav de Uminatson est un vav de liaison qui voudrait dire qu'il faut offrir à la fois du gros et du menu bétail. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit ici dans notre paragraphe Min habakar Uminatson, du gros ou du menu bétail. Le O nous précise donc que Ratsa, s'il veut Echad Mevi, il peut emmener un des deux, donc soit du gros, soit du menu bétail. Ratsa, s'il le veut, Shnai Mevi, il peut offrir aussi les deux.
Donc, la Gemara demande vers Rabbi Yonatan, et selon l'opinion de Rabbi Yonatan, la Malikra, pourquoi a-t-on besoin d'un pasouk pour préciser que s'il le veut, il peut se contenter d'offrir un seul animal pour accomplir son vœu? Ha'amar, pourtant, il dit que lorsque la Torah parle de deux choses concernant une interdiction ou une action à faire, elle ne veut pas dire qu'il faut les deux articles ensemble, Adjifrot l'cha katuv yachdav, jusqu'à ce que le pasouk précise clairement, par le moyen du terme yachdav, qu'il faut les deux choses ensemble. L'exemple est, par exemple, concernant l'interdiction de maudire ses parents. Le pasouk dit dans Vaikra Kaf, tout homme qui maudira son père et sa mère. Là-dessus, il y a une discussion entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Selon l'opinion de Rabbi Yonatan, tant que le pasouk n'a pas employé le terme de Yardav, qui voudrait dire qu'il les a maudits tous les deux ensemble, nous pouvons comprendre du pasouk que l'interdiction existe, même s'il maudit uniquement son père ou uniquement sa mère. Tandis que selon Rabbi Yoshia, même sans le terme Yardav, nous pouvons comprendre que le pasouk voulait parler des deux ensemble, donc seulement s'il maudit les deux ensemble, il transgresse l'interdiction. Il faut donc une précision spéciale du pasouk pour nous dire que même s'il maudit un seul de ses parents, il a transgressé l'interdiction. Ceci est expliqué dans Maseret Sanhedrin Daf Samervav. En tout cas, l'opinion de Rabbi Yonatan est que sans le terme de Yardav, nous comprenons déjà que le pasouk voulait parler même d'un seul de ses parents, donc dans notre contexte aussi. Lorsque le pasouk dit dans Vaikra Aleph, celui qui veut offrir un sacrifice du gros et du menu bétail, puisque le pasouk n'a pas employé le terme Yardav ensemble, nous pouvons comprendre qu'il peut se contenter d'offrir un seul animal comme sacrifice. Pourquoi a-t-on besoin du O donc pour nous enseigner qu'il peut se contenter d'offrir un seul animal comme sacrifice? L'agma répond, Sal Kadata Hamina, on aurait pu penser dire.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.